service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, RFI vous donne la parole sur les déboires judiciaires de Laurent Gbagbo et Charles Blé-Goudet, acquittés en début d'année par la CPI. L'ex-président ivoirien et son ancien ministre de la Justice sont assignés à résidence en Belgique, aux Pays-Bas. Ils attendent un éventuel procès en appel. Seulement voilà, les deux hommes auront, quoi qu'il arrive, des comptes à rendre devant la justice ivoirienne. Laurent Gbagbo a vu confirmer en appel sa condamnation à 20 ans de prison pour l'affaire dite du braquage de la BCAO, et Charles Blé-Goudet sera lui jugé à Abidjan pour crime contre l'humanité. Alors évidemment, le calendrier pose question. Nous sommes à un an de l'élection présidentielle, alors faut-il y voir une instrumentalisation de la justice, comme l'affirme l'opposition? Le pouvoir d'Abidjan cherche-t-il à empêcher l'ex-président et son ancien ministre de rentrer au pays? Nous lancerons le débat. 33 9 693 693 70. Plusieurs centaines de commentaires postés sur la page Facebook de l'émission. J'en lirai évidemment quelques-uns pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, vous le savez, tous les matins, nous commençons l'émission avec vos questions pour mieux comprendre l'actualité, mieux décrypter tous les sujets que nous traitons à l'antenne. Et nous allons commencer la semaine avec Issoufi, qui nous appelle de Bamako. Bonjour Issoufi.
Bonjour Juan, bienvenue à Bamako, la ville des Trois Caïmans.
Merci de nous accueillir dans la capitale malienne. Bienvenue à vous sur RFI. Vous avez des questions sur la situation sécuritaire dans votre pays, le Mali?
Effectivement. Suite à l'attaque du camp d'Indélimène à Ménaka, Florence Parly, lors de sa récente visite au Mali, a annoncé l'arrivée d'une nouvelle force spéciale au Mali, visant à renforcer la position de l'armée malienne, dénommée l'opération Takuba. Là-dessus, je voudrais savoir quels sont les pays fournisseurs de ces forces spéciales au Mali. Et quel va être l'apport de cette force spéciale, sachant bien déjà que l'opération Barkhane, Sabre sont déjà sur le terrain. Malgré tout ça, les attaques continuent à faire des victimes.
Effectivement, question que se posent de nombreux Maliens. Quelle sera l'utilité de cette nouvelle unité composée de troupes spéciales européennes? Nouvelle unité annoncée la semaine dernière par Florence Parly. Bonjour Franck Alexandre.
Bonjour Juan.
Spécialiste des questions militaires à RFI. Disons-le d'emblée, les préparatifs de cette opération se déroulent dans la discrétion. Avez-vous malgré tout des informations concernant les pays qui seraient prêts à accepter cette proposition de la France?
Eh bien, officiellement, Juan, le ministère des Armées tient à garder le silence sur ce point, car à ce stade, eh bien, rien n'est encore concrétisé. Une dizaine de pays ont manifesté leur intérêt. Bien sûr, Issoufi, il est probable que, par exemple, l'Espagne, la Grande-Bretagne et les pays du Benelux qui ont à leur disposition des forces spéciales bien participent naturellement à l'opération, mais pour l'heure, cette unité de forces spéciales européennes évoquée par Florence Parly, eh bien, c'est surtout un nom. Takuba, vous le savez, ça signifie en langue touareg sabre. Un nom, bien sûr, ça ne vous a pas échappé, qui fait écho à la force sabre, les forces spéciales françaises de la mission Barkhane déployées au Mali. Car cette idée de force spéciale européenne n'est pas nouvelle. Hein. On peut même parler d'un véritable serpent de mer. La ministre des Armées avait déjà lancé un appel en ce sens en juin dernier, mais peu de pays européens s'étaient alors manifestés. Cette fois, Florence Parly indique que la France a recueilli de nombreux retours positifs, précisant cependant que ces accords de principe restent subordonnés à un accord politique, vous l'avez compris. Il s'agit d'un vote des parlements nationaux.
En tout cas, on devrait en savoir un peu plus en début d'année prochaine. C'est ce qu'annonce l'état-major français, puisque Paris espère déployer cette nouvelle force composée, on le rappelle, de troupes spéciales européennes au premier semestre 2020. Franck Alexandre, la question posée par Issoufi sur le rôle exact de Takuba mérite d'être posée. Il y a déjà sur le terrain, rappelons-le, Barkhane et ses 4500 militaires militaire. Il y a donc SABRE, vous en parliez à l'instant, cette force qui réunit les forces spéciales françaises. Concrètement, quel sera le rôle de Takuba?
Takuba,
pardon.
Dans un premier temps, SABRE, donc en langue touareg, dans un premier temps, Rouen, eh bien le rôle de cette force serait limité à l'instruction et à l'accompagnement au combat des armées nationales, donc à commencer par les FAMA. Il s'agit, dit la ministre des Armées, de transmettre un savoir-faire d'exception aux unités maliennes, un savoir-faire qui à ce jour manque cruellement. Rappelez-vous, il y a 10 jours, 49 soldats tués dans une attaque revendiquée par l'organisation État islamique près du Niger, illustrant l'extrême vulnérabilité de l'armée malienne. Alors concernant l'apport, il s'agit surtout pour la France de ne plus être seule sur ce théâtre. Jusqu'à présent, les armées européennes, notamment les Britanniques, épaulent les Français uniquement sur le plan capacitaire, avec leurs hélicoptères lourds par exemple. Il s'agit désormais d'envoyer des troupes au sol, mais de nombreuses questions reste en suspens. Quel sera le commandement de ces forces? Dépendront-elles de Barkhane ou de SABRE? Vous savez, c'est deux chaînes de commandement qui sont séparées, coordonnées bien sûr, mais qui ne sont pas subordonnées l'une à l'autre. Et jusqu'à quel point, surtout, ces forces spéciales accompagneront-elles l'armée malienne au combat? Tout cela reste à trancher. Et concernant le calendrier, les premières annonces devraient être faites en janvier prochain, pour un déploiement souhaité à l'automne 2020.
A-t-on répondu à vos questions, Issoufi?
Oui, mais j'ai une petite rectification. Le mot Takuba est un mot sans règle et non Touareg.
Ah, bah écoutez, en tout cas,
merci de l'apprendre.
Merci, on l'apprend. C'est vrai que depuis qu'on connaît le nom de cette nouvelle opération militaire Takuba, on nous dit que ça signifie sabre en tamashek. Donc vous nous corrigez, Issoufi.
Effectivement, je suis natif du Nord, donc c'est pas uniquement du Touareg.
D'accord, donc vous savez...
Les Touaregs ont emprunté ça du Sahara.
Ah, d'accord, très très bien. Bah, merci de cette précision. Franck-Alexandre, bonne journée.
Bonne journée, Rouen.
Et merci à Issoufi qui nous appelait de Bamako, la capitale malienne, où il est 8h17. 33 9 693 693 70. Nous allons nous intéresser au Cameroun. Bonjour Serge.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs.
Vous nous appelez de Chang, soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Merci Juan. En fait, le président américain, il y a deux semaines, a décidé du retrait de l'État du Cameroun de l'accord de partenariat économique de l'AGOA. Justifiant cette décision par le fait que le Cameroun serait rendu victime des violations de droits de l'homme. Alors j'aimerais savoir quelles pourraient être les répercussions sur le plan économique sur le Cameroun.
Ouais, l'exclusion du Cameroun sera effective le 1er janvier. Bonjour Pierre-Jacques Mau.
Oui, bonjour.
Économiste, chercheur à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. D'abord, rappelez-nous ce qu'est l'AGOA.
L'AGOA, qui veut dire en anglais African Growth and Opportunity Act, c'est une loi qui a été adoptée en 2000 à l'époque de Bill Clinton par le Congrès américain, et qui permet aux États africains qui le souhaitent de faire entrer leurs marchandises sur le marché américain sans droit de douane. Donc c'est une facilité commerciale, mais qui a des contreparties en termes de respect des droits de l'homme et respect des conditions du marché, respect de la concurrence.
Et d'ailleurs, chaque année, le président américain détermine si les pays membres de l'AGOA respectent les critères d'éligibilité, et visiblement, le Cameroun ne semble plus respecter ces critères.
Alors effectivement, il y a la possibilité de faire sortir les pays. Actuellement, il y a 32 pays africains qui sont éligibles. Il y a deux pays qui ont été sortis il y a quelques temps, c'est le Burundi et la République démocratique du Congo. Et puis on vient d'apprendre effectivement que le Cameroun, parce que le pays ne respecterait pas les droits de l'homme, et là ça fait référence à la situation des détenus politiques originaires des régions de l'Ouest, anglophones du Cameroun, donc le pays serait sorti de cette facilité à compter du 1er janvier, comme vous l'avez dit.
Ouais. Est-ce que c'est un coup dur pour le Cameroun?
Écoutez, pas tellement. D'abord, il y a eu une première semonce. Les Américains ont arrêté leur aide militaire cette année.
En février, de mémoire.
Oui, exactement. Mmh. Bon, visiblement, ça n'a pas changé la position camerounaise. Quand on regarde la situation économique, on s'aperçoit que cette facilité est tout à fait résiduelle pour le Cameroun. D'abord parce que les Américains sont très peu importateurs de produits camerounais. Ils sont à peu près le dixième bien loin derrière la Chine, l'Italie, les Pays-Bas, la France, l'Espagne, etc. Donc le montant des marchandises, si vous voulez, la valeur des marchandises concernées est relativement faible. Ce serait estimé à peu près à 60 millions de dollars, c'est-à-dire quelques peut-être 2-3% des exportations camerounaises. Donc ça aura très peu d'impact. Le produit concerné, c'est essentiellement du pétrole brut. Et je suis convaincu que les Camerounais trouveront moyen de vendre leur pétrole ailleurs. Donc ça aura un faible impact au plan commercial. Ça aura plus d'impact au plan politique et symbolique. C'est toujours très désagréable pour un pays, même si on connaît la capacité de résistance de Paul Biya sur les sanctions étrangères. C'est toujours désagréable d'être pointé du doigt pour un non-respect des droits de l'homme.
Ouais, c'est vrai que ça met à mal encore un peu plus les relations entre le Cameroun et les États-Unis. Faut quand même peut-être rassurer Serge, je ne sais pas s'il est inquiet par cette décision de Donald Trump, mais la décision du président américain n'est pas irréversible. C'est-à-dire que le Cameroun pourra, à moyen terme ou à long terme, réintégrer l'AGOA s'il s'engage à respecter les droits de l'homme dans son pays.
Oui, tout à fait. On a des précédents. Le Niger a été condamné puis revenu. Madagascar a été condamné puis revenu. On parle d'un retour de la République démocratique du Congo. Donc effectivement, il n'y a pas d'irréversibilité de ce mécanisme. Il est toujours possible, une fois que vous avez satisfait aux conditions des États-Unis, de revenir bénéficier de cet accord.
Ouais.
Qui est pas un bénéfice tout à fait extraordinaire. Hein. La tendance générale est la réduction des droits de douane pour les produits africains dans le cadre de divers accords. Et puis c'est devenu un principe un peu général du côté de l'OMC.
L'Organisation mondiale du commerce.
Exactement.
Ouais, ouais. Bon, en tout cas, même si les États africains exportent peu aux États-Unis, plus de 70% des exportations africaines vers les États-Unis se réalisent dans le cadre de l'AGOA. Serge, est-ce qu'on a répondu à votre question ?
Parfaitement, Juan, et bien merci.
Merci à vous et un grand merci à Pierre-Jacques Mau qui s'est libéré ce matin. Il a pris quelques minutes pour vous répondre en direct. Pierre-Jacques Mau, économiste, chercheur à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Si vous prenez l'émission en cours, que vous avez peut-être raté le début d'une explication d'un de nos experts, et bien surtout, pas de panique, vous pourrez réécouter l'intégralité des explications sur la page Facebook de notre émission, mais aussi sur notre application Pure Radio et sur le site internet RFI. Dans la rubrique émission. Donc voilà, séance de rattrapage quand vous le souhaitez, à tout moment, 24 heures sur 24, sans aucun problème. On repasse au standard pour une autre question. Yabao, bonjour.
Bonjour, Juan.
Bienvenue, merci de nous appeler du Burkina Faso. Vous êtes à Bobo-Dioulasso, précisément.
Exactement.
On vous écoute.
Paulo Paulino, un militant indigène au sein du groupe des gardiens de la forêt en Amazonie, a été assassiné dans une embuscade.
Oui.
L'année dernière, 20 leaders indigènes ont été assassinés. Comment expliquer cette histoire ?
Ah, et c'est vrai qu'il s'appelait Paolo Paulino, inconnu évidemment du grand public, hormis par ceux qui suivent de très 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 l'action des gardiens de la forêt, ce groupe qui défend les populations indigènes amazoniennes. Il a été abattu, il a été assassiné froidement d'une balle dans la tête. Bonjour Marie Denga Agbe.
Bonjour.
Vous êtes chargé du plaidoyer à Survival International, qui est une ONG de défense des droits des peuples autochtones. Cela fait des mois que votre ONG dénonce les exactions commises à l'encontre des populations indigènes amazoniennes. Et notre auditeur Yabao le rappelait à juste titre, ce n'est pas la première fois qu'un membre des gardiens de la forêt est assassiné.
Alors oui, il faut savoir que ça fait des années que, on va dire peut-être même depuis l'arrivée des Espagnols, que les populations autochtones au Brésil subissent des violences. Alors comment ça s'explique ? Il faut savoir que au Brésil, la Constitution de 88 garantit le droit aux populations autochtones de vivre sur leurs terres et d'en être propriétaires. Il est donc interdit pour des entreprises et des particuliers de venir exploiter ces territoires. Alors les territoires autochtones, pour eux, c'est vraiment tout. C'est leur maison, leur supermarché, leur pharmacie. Donc, ils en prennent extrêmement bien soin. Il y a 80% de la biodiversité de notre planète qui se trouve sur ces territoires. Et donc, ce sont des territoires riches en ressources naturelles, minéraux et bois. Et donc, ce sont des territoires très prisés par les bûcherons, les orpailleurs, et aussi par l'industrie agroalimentaire, parce qu'ils représentent à peu près 13% de la superficie du Brésil, et donc l'industrie agroalimentaire voit dans ces territoires des possibilités immenses de développer les exploitations agricoles.
Et donc pour défendre leur territoire, les populations indigènes amazoniennes ont créé ce qu'on appelle les gardiens de la forêt. C'est une sorte de milice, finalement.
Alors, pas une milice. Ils ont le droit de défendre leur territoire. Ils ne sont pas violents. Ce qu'ils veulent, c'est empêcher le trafic illégal. Alors, il faut savoir qu'ils défendent leur territoire, mais aussi ils défendent un peuple non contacté, le peuple Awa, qui est un des peuples les plus vulnérables de la planète et qui se trouve au sein, qui se trouve dans le même territoire que le peuple Guajajara.
Quand vous dites qu'on ne peut pas parler de milice, ils sont tout de même armés, les gardiens de la forêt, non ?
Oui, ils se défendent. En fait, ils n'attaquent pas. Ce qui arrive, ces meurtres arrivent quand ils prennent en flagrant délit, des trafiquants de bois qui, eux, sont lourdement armés. Parce qu'en fait, les peuples autochtones, ce qu'ils font, c'est les gardiens de l'Amazonie, en fait, ils font plutôt du tracé GPS, du drone pour voir ce qui se passe, comment la déforestation avance, des patrouilles dans la forêt. Et forcément, ils ont en face d'eux des groupes très lourdement armés, donc ils ont quand même quelques moyens de se défendre.
Et
les meurtres donc arrivent dans le contexte de prise en flagrant délit. Et sinon, ce sont, comme vous l'avez dit, des attaques très froides contre les leaders, parce que c'est aussi un message très fort. C'est une façon de vouloir intimider les populations autochtones, de les obliger à quitter leur territoire, d'arrêter de se défendre.
Excusez-moi, Marie-Nga Agbe, Yabao a d'autres questions à vous poser. Le temps passe très très vite, on a à peine 3 minutes devant nous. Yabao ?
Le gouvernement a-t-il pris des mesures pour lutter contre ces assassinats ?
Ah, que répondre ?
Alors non, avec le gouvernement Bolsonaro, c'est même l'opposé qui se passe. Lui, il essaie par tous les moyens de détruire la loi de protection des populations autochtones. Alors lui, il est complètement opposé à la délimitation des territoires. Pour lui, ça représente une perte économique pour le Brésil. C'est quand même important de dire que qu'il a été élu, c'est en partie grâce à 3 lobbies, le lobby des armes, le lobby évangélique et le lobby de l'agriculture, donc qui défend leurs intérêts. Il a essayé par plusieurs moyens d'enlever les protections aux peuples autochtones, en essayant de retirer le département des affaires autochtones du ministère de la Justice pour le mettre sous le contrôle d'une ministre évangélique qui fait l'objet d'une enquête pour incitation à la haine raciale, enlever la responsabilité des démarcations des territoires au département des affaires autochtones pour le mettre sous le ministère de l'Agriculture, qui est aussi dont la ministre fait partie du lobby de l'agriculture. Et il a publié plusieurs décrets pour rendre plus difficile la protection des territoires autochtones et pour surveiller leurs alliés, donc les ONG.
Ouais.
Et au-delà de ça, c'est son discours d'incitation à la haine et anti-autochtone qui a mis le feu, qui a embrasé, qui fait qu'il y a vraiment une explosion des invasions et des attaques contre les peuples autochtones.
Donc depuis son élection, vous l'affirmez, on assiste à une recrudescence des exploitations forestières, minières, illégales, là même où vivent ces populations indigènes amazoniennes.
En tout cas, des tentatives. Oui, il y a un rapport concernant les teneurs indigènes qui a publié une étude, et il y aurait 44%. Les cas d'invasion de territoire autochtone ont augmenté de 44% par rapport à 2018.
Ah oui.
Donc oui, on voit que... Oui.
Effectivement. Notre auditeur Yabao nous demandait, est-ce que le gouvernement prend des mesures ? À vous entendre, non. Que faut-il penser de la déclaration du ministre de la Justice, Sergio Moro, qui promet que les responsables de l'assassinat de Paulo Paulino seront poursuivis devant la justice ?
Alors, on espère que ça sera le cas, parce que, comme vous le disiez, il y en a déjà 3 qui avaient été tués l'année dernière, les responsables n'ont pas été arrêtés. Et puis au-delà, on espère qu'ils vont arrêter les meurtriers. Puis au-delà de ça, en fait, ce qu'il faudrait vraiment, c'est qu'on ait une déclaration du gouvernement qui assume sa responsabilité et qui prenne des mesures pour aider les populations autochtones à se protéger. C'est surtout ça qu'on attend du gouvernement Bolsonaro. Arrêter les responsables et puis vraiment décider qu'ils vont prendre des mesures pour aider les peuples autochtones à se protéger, à protéger leur territoire.
Yabao, êtes-vous satisfait des explications de Marine Denga Agbe?
Très satisfait.
Eh bien, bonne journée à tous les deux. Merci à vous. D'autres questions à la rédaction, évidemment, demain matin. D'ici là, vous continuez à nous appeler. Le standard reste ouvert. Toute l'équipe est là tout au long de la journée pour réceptionner vos réactions sur l'actualité, vos questions. 33 9 693 693 70. Et vous envoyez également vos questions sur les réseaux sociaux. La page Facebook de l'émission RFI appelle sur l'actualité, sans oublier de nous envoyer en message privé votre numéro de téléphone, car le principe de cette émission, vous le connaissez, c'est de vous avoir, de vous entendre en direct sur l'antenne de RFI. On marque une pause, on retrouve l'ensemble du service Afrique pour la dernière édition d'Afrique Matin et on revient tout de suite après pour débattre des déboires judiciaires de Laurent Gbagbo et Charles Blégoudé.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.